Vous aviez pensé que ce samedi-là, vous aviez bien mérité de vous reposer. Et là, coup de fil. Ton ami a besoin d'aide, il est en train de déménager. Ton voisin a besoin d'aide, il est dans la peine. Ta belle-mère est malade, il faut aller la voir. Bref, Dieu fait irruption dans notre vie. Et quel accueil allons-nous lui réserver? Alors, Dieu demande des choses parfois extraordinaires, pas toujours, mais à des gens ordinaires. Ah, qu'est-ce qu'il va demander à Jonas? Il va lui dire, lève-toi. Là, il est assis. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Il lui demande de se lever, de se déranger, de se bouger un peu, d'aller à Ninive. Ninive, à l'époque, c'était le grand méchant loup. C'était l'ennemi du peuple, de son peuple à lui, de Jonas. Donc il lui dit, va dans la gueule du loup. Va chez des gens que tu n'aimes pas. Principe, on n'aime pas ses ennemis. Et il lui dit, crie contre elle. Alors, il faut bien prendre ça dans le bon sens. C'est pas crier pour l'écraser. Et Jonas a bien compris ce que Dieu lui demandait. C'est crier contre sa méchanceté pour que Ninive se repente et que Dieu lui pardonne. Et pour nous, qu'est-ce que Dieu peut nous demander? Ose souvent de nous déranger un peu. On a très vite tendance à se trouver dans un petit confort tranquille, une petite routine, et pas vouloir en changer. Nous déranger, changer nos plans, changer nos points de vue, gâcher notre belle tranquillité. Est-ce que nous sommes prêts à ça? Et puis, il nous demande de nous intéresser pour leur bien à nos ennemis. Jésus d'ailleurs dira à eux, aimez vos ennemis. Est-ce que vous avez des ennemis? Oh non, on est trop bien pour ça. Hein? On n'a pas d'ennemis, nous. Hein? Mais on a peut-être des gens qui ne sont pas forcément les plus sympathiques du monde. Et Dieu nous demande, comme il demande à Jonas, de nous intéresser à des gens qui ne nous sont pas forcément sympathiques. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous savez comment les Juifs avaient fait pour obéir à ça? Ils avaient trié les prochains. Les Juifs comme moi, hein, les pharisiens, d'accord, on peut les aimer, c'est... Alors, on les aime. Par contre, les Samaritains, alors faut pas nous demander de les aimer. Et puis les Romains, n'en parlons pas. C'est pour ça que quand Jésus va dire à un lettré juif, il va lui dire, ben, le commandement, c'est d'aimer son prochain comme soi-même, l'autre va lui dire, oui, mais c'est qui mon prochain? Mon prochain, c'est tout le monde. Et puis, il va nous dire aussi de crier contre le mal. À quand remonte notre dernière indignation publique contre le mal? Où est-ce que nous avons capitulé depuis longtemps? Ce n'est pas populaire de marquer son désaccord contre un consensus. Donc, à Dieu, à nous, Dieu demande aussi des choses extraordinaires. Je prends ce mot, vous voyez là-haut, je l'ai divisé en deux, extraordinaire. Ça ne veut pas forcément dire des choses gigantesques, ça veut dire des choses qui ne sont pas dans notre ordinaire, hors de ce que nous faisons habituellement. De nous bouger, quoi. Et le point que je voudrais voir après, c'est que Dieu est patient envers les gens ordinaires. Comment réagit Jonas? On l'a vu, Dieu lui dit « va là-bas » et il va là-bas. Il réagit comme je le fais souvent, hélas. Il s'enfuit. Il refuse de s'impliquer. Oh oui, Jonas est mon frère et je lui ressemble. Je ne suis pas courageux, comme lui ne l'a pas été. En fait, c'est plus compliqué que ça. Je ne suis pas gentil avec Jonas, parce que je vous dis qu'il n'est pas courageux, mais ce n'est pas pour ça qu'il est parti. Il n'est pas parti parce qu'il avait peur d'aller à Ninive. Moi, j'ai peur, mais pas Jonas. Pour savoir pourquoi il est parti, il faut aller à la fin du livre. Alors, au chapitre 3, au verset 10. Parce que si on va un peu plus loin dans l'histoire de Jonas, Jonas finit par y aller à Ninive, il finit par faire ce que Dieu lui avait demandé, c'est-à-dire à annoncer à Ninive leur méchanceté, annoncer le jugement imminent de Dieu. Et que font les habitants de Ninive? Ils se repentent et ils demandent pardon. Jonas 3, verset 10. « Lorsque Dieu constata comment les Ninivites réagissaient et abandonnaient leur mauvaise conduite, il renonça à faire venir sur eux le malheur dont il les avait menacés. Il s'en abstint. Jonas le prit très mal et il se mit en colère. Il adressa cette prière à l'Éternel. « Ah, Éternel, je l'avais bien dit lorsque j'étais encore dans mon pays. » C'est pour prévenir cela que je me suis enfui à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu plein de grâce et de compassion, lent à te mettre en colère, riche en amour, et que tu renonces volontiers aux menaces que tu profères. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort vaut mieux pour moi que la vie. Vous vous rendez compte? Un homme qui ose adresser cette prière à Dieu. On se dit, mais Dieu va le foudroyer sur place, c'est pas possible. Et Dieu lui répond, est-ce que tu as raison de te mettre en colère? Fantastique douceur de Dieu. Alors on comprend que c'est pas par lâcheté que Jonas a refusé d'obéir. J'étais un peu injuste envers lui tout à l'heure, je lui demande pardon. C'est parce qu'il avait l'idée qu'il connaissait mieux que Dieu ce qu'il fallait faire. Et je pense que nous aussi, il nous arrive de manquer de courage, mais il nous arrive aussi, parfois, dans certaines situations, de mieux savoir que Dieu ce qu'il faut faire. Oh ben non, non, c'est pas la peine que j'aille leur parler. De toute façon, ils ne m'écouteront pas. Ou... tu sais, ils ont déjà leur idée, ils vont se moquer de moi. Bon. Et Dieu nous demande, est-ce que tu as raison de te mettre en colère? Est-ce que tu as raison de contester ce que moi je te dis? Alors, Dieu non seulement est patient, mais Dieu veut instruire et perfectionner les gens ordinaires. Alors, je reviens un peu en arrière. Donc, on a vu que notre Jonas s'embarquait sur un bateau, et ce bateau, il va lui arriver des malheurs. Qu'est-ce qui peut arriver comme malheur à un bateau? Une tempête. Et une tempête effroyable, au point que les marins, les voyageurs, tout le monde dit « c'est pas possible, on va y rester ». Et puis en même temps, ils ont conscience que cette tempête, elle a quelque chose qui n'est pas habituel. Alors ils se disent « c'est la faute de quelqu'un ». Et il tire au sort. Je vous donne rendez-vous, chapitre 1er, verset 7. Le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui disent, explique-nous ce qui nous attire ce malheur. Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays? De quel peuple es-tu? Il leur répondit, je suis hébreu, Je crains l'Éternel, le Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre ferme. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte et lui dirent, qu'as-tu fait là? Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel, parce qu'il le leur avait expliqué. Ils lui dirent, que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Car la mer était de plus en plus démontée. Il leur répondit, prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous une grande tempête. Joseph n'est plus peureux s'il l'a été. Jonas. C'est bien. Il y en a au moins un qui dort pas. C'était exprès, c'était un test. Hein. Jonas n'est plus peureux, il a même plus peur de la mort, puisqu'il dit « Jetez-moi par-dessus bord dans la tempête et vous irez en paix. » Et nous, les chrétiens, est-ce que c'est notre faute si le bateau coule? Nous sommes embarqués sur le navire de notre monde et je me pose la question. Est-ce que l'Église, je parle de l'Église en général, l'Église dans le monde, ne porte pas une part de responsabilité dans la tempête morale que traverse notre monde? Est-ce que la lâcheté des chrétiens qui refusent de faire, de dire et de faire ce que Dieu leur demande n'est pas en train d'entraîner notre société dans la tempête? Est-ce que ma tiédeur ne participe pas à l'état de ce monde qui ne sait plus distinguer le bien et le mal? Je pense qu'une partie de l'Église a perdu la capacité et le désir de dire et de dire tout haut ce qui est bien et ce qui est mal. Jésus nous avait avertis. Enfin, il avait averti ses disciples. C'est vous qui êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, avec quoi le salera-t-on? Il n'est plus bon qu'à être jeté dehors, jeté par-dessus bord comme Jonas, et foulé aux pieds par les hommes. Changer le monde, c'est difficile. Mais est-ce qu'au moins dans notre famille, dans nos proches, vis-à-vis de nos amis, de nos collègues de travail, est-ce que nous sommes capables, au nom du Seigneur, de dire parfois « ça c'est bien, ça ce n'est pas bien ». Assumons notre rôle de témoin de la vérité là où nous sommes. Et finalement, Dieu sauve des gens ordinaires. Ben, vous savez la suite de l'histoire, je vous ai promis que je ne vous parlerai pas beaucoup du poisson, mais on est obligé d'en parler un petit peu quand même. Il est au milieu du livre, ce poisson, on ne peut pas le contourner. Jonas est passé par-dessus bord, il tombe dans la mer, un poisson l'avale, va le garder 3 jours dans son ventre et le recracher sur la terre ferme. C'est la plus grande partie du chapitre 2. Et cette fois, Jonas va à Ninive. Et comme je le disais tout à l'heure, il parle comme la méchanceté de cette ville, la ville, les habitants se repentent et Dieu leur pardonne. Et Jonas se met en colère. « Je savais que tu es un Dieu plein de grâce et de compassion. » Nous, ça nous réjouit plutôt ça, que tu es un Dieu de grâce, plein de grâce et de compassion. Mais Jonas, il était en colère pour ça, parce qu'il ne comprenait pas que ce Dieu-là était prêt à pardonner à ses ennemis, à lui. Alors, il faut que Dieu lui apprenne un petit peu plus. Et je vous invite à lire la fin du livre de Jonas, le chapitre 4 et le verset 5. Jonas sortit de la ville et s'installa à l'est de la ville. Il se construisit là une cabane et il s'assit dessous, à l'ombre, en attendant de voir ce qui se passerait dans la ville. Je pense qu'il avait encore l'idée que quelque part, Dieu allait fondre sur la ville et la détruire. Il est à l'extérieur, il attend de voir ce qui se passe. L'Éternel Dieu fit pousser un ricin qui s'éleva plus haut que Jonas et lui donna de l'ombre sur sa tête afin de le détourner de sa mauvaise humeur. Vous vous rendez compte? Cet homme qui vient de... d'enguirlander Dieu, je ne sais pas comment on peut dire, mais de lui faire des reproches en tout cas, Dieu lui dit simplement, est-ce que tu as raison de te mettre en colère? Et il va prendre soin de lui. Ah ben, il a déjà pris soin de lui dans le ventre du poisson, mais il va encore prendre soin de lui. Et Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Mais le lendemain, au lever du jour, Dieu fit venir un ver qui rongea le ricin, de sorte que le ricin se dessécha. Et lorsque le soleil se mit à briller, Dieu fit venir de l'est un vent brûlant, et le soleil tapa sur la tête de Jonas. Sur le point de tomber en défaillance, Jonas demanda la mort, c'est un peu une habitude chez lui. Jonas demanda la mort en disant « La mort vaut mieux pour moi que la vie ». Dieu demanda à Jonas « Fais-tu bien de te mettre en colère à cause de ce ricin ?» On voit que Dieu reprend sa question. « Est-ce que tu as raison de te mettre en colère ?» Il répondit « Oui !» Oui, je fais bien de me mettre en colère. On imagine qu'il tape du pied, hein, un peu comme un petit qui fait un caprice. Hein. Oui, je fais bien de me mettre en colère au point de désirer la mort. Et l'Éternel lui dit, tu t'apitoies sur ce ricin qui ne t'a coûté aucune peine, que tu n'as pas fait pousser, qui est sorti de terre en l'espace d'une nuit et qui a péri la nuit suivante. Et tu voudrais que moi, je n'aie pas pitié de Ninive, cette grande ville, où vivent plus de 120 000 personnes qui ne savent pas distinguer le bien du mal, sans compter des animaux en grand nombre. Dieu apprend des choses à Jonas. Et à plusieurs reprises, il va apprendre des choses à Jonas. Dieu sauve Jonas de la mort, mais il le sauve aussi de ses mauvais raisonnements, de ses mauvaises habitudes. Il le sauve de sa haine des autres. Et Dieu nous a sauvés. Il nous a sauvés lorsqu'il nous a donné son fils Jésus. On en a déjà parlé, on va en parler encore. Son fils qui nous a accordé son pardon, sa vie éternelle. Mais si nous regardons en arrière, Dieu nous a sauvés plusieurs fois. Plusieurs fois où nous aurions pu mourir, physiquement. Il y a quelques semaines, on a baptisé ici Valentin, qui nous a dit que deux fois, il avait été sauvé de la noyade. Mais il n'a pas fait cela sans avoir un plan pour nous. L'apôtre Paul, dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 2, dit nous rappelle que c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes ses œuvres. Nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Dieu n'en a pas fini avec nous. S'il nous a sauvés une première fois en Jésus-Christ, s'il nous a maintenus en vie, s'il nous a appris des choses, c'est pour des œuvres bonnes que nous devons pratiquer. En conclusion, nous sommes des gens ordinaires. J'ai le regret de vous dire, vous êtes des gens ordinaires. Et moi aussi. Ça va, je ne vous vexe pas? Il n'y a pas de roi, d'empereur, de... Hein? Et puis même... S'il y avait des rois et des empereurs, de toute façon, ce sont des gens ordinaires quand on les compare à Dieu. Mais nous sommes des gens ordinaires. Et dans cette histoire de Jonas, Dieu nous montre qu'il se soucie des gens ordinaires, des gens comme nous. Et si vous regardez bien, toutes les histoires de la Bible sont faites avec des gens ordinaires. que Dieu va encourager, que Dieu va stimuler. Les disciples de Jésus, Jésus y choisit des pêcheurs de poissons, un collecteur d'impôts, un révolté, le zélote, un jumeau, Thomas, on ne sait pas où est passé l'autre. Il prend des gens simples et il va les amener peu à peu à faire des choses, à être capables. Et Dieu fait irruption dans notre vie de plusieurs manières. Il peut nous demander de grandes choses ou des petites choses. Il nous a sauvés peut-être plusieurs fois pour accomplir sa volonté, pour accomplir les œuvres qu'il a préparées d'avance. Et il nous forme, il nous instruit, il nous arme pour cela. Et en attendant, il patiente pour que nous soyons prêts. Quelle va être notre réponse ? Est-ce que nous allons faire comme Jonas, première version, c'est-à-dire nous enfuir ? Est-ce que nous allons faire comme Jonas, deuxième version, c'est-à-dire essayer de démontrer à Dieu qu'il se trompe et que c'est nous qui avons la vérité ? Ou est-ce que nous allons capituler et lui dire « D'accord Seigneur, ok, je vais faire ça, même si ça me semble difficile. Je vais aller voir mon voisin et lui dire « Mon voisin, je t'aime. Toi, tu ne m'aimes pas, mais moi, je t'aime. » Ou est-ce que je vais, je ne sais pas, offrir un calendrier, offrir un sourire, offrir un coup de main, accueillir quelqu'un. Toutes choses que Dieu peut nous demander. Il ne nous demande pas tous la même chose, sauf une. Aimez-vous les uns les autres. Merci.